Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographique, Graphique.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Certo, e o filme inteiro é representado por crianças que pertencem a esta origem social.
Sommaire aujourd'hui, une spéciale enfance et adolescence au cinéma durant laquelle nous reviendrons sur Pixote, la loi du plus faible, réalisé par Hector Babenco et disponible chez Carlotta Film. Nous parlerons également de Little Buddha de Bernardo Bertolucci qui vient de sortir dans une superbe édition 4K chez Rimini Edition. Nous parlerons aussi de Yurt, j'espère que je le prononce bien, de Nehir Tuna, disponible chez Blackout. Nous reviendrons sur Heroico de David Zonana, disponible chez Blackout. Et nous terminerons avec Oli de Fientrock, disponible également chez Blackout. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver et Lucie Mautier pour leur aide sur cette émission. Causer enfance et adolescence au cinéma, je suis aujourd'hui accompagné de mes deux fidèles acolytes, hein, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de culture souterraine et oublié, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chiméra Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Bonjour Thomas.
Bonjour Gégé, bonjour Damien et bonjour à toutes.
Thomas, puisque tu as la parole, je vais en profiter pour te la laisser, parce que comment dire, tu es venu nous parler d'une gentille comédie familiale qui s'appelle Pixote, la loi du plus faible, de Hector Babenco, un film de 81 sorti chez Carlotta Film. Mon cher Thomas, c'est à toi.
Hector Babenco n'a pas réalisé La guerre des boutons. Hein, et la Pixote n'est effectivement pas un remake de ce film d'Yves Robert. Hector Babenco, c'est un peu le réalisateur qui aime bien filmer les milieux carcéraux. Hein, il avait fait un film sur 40 roues sur une prison au Brésil. Là, et là, Pixote, la loi du plus faible, commence dans un milieu carcéral pour enfants et adolescents au Brésil.
il décrit un milieu pas très cool, quoi. Donc Pichot, c'est un jeune délinquant, hein, qui est donc enfermé dans cette espèce de prison pour les jeunes. Et il va rencontrer d'autres jeunes comme lui, de jeunes délinquants, et ils doivent faire face à la corruption des formateurs, à la corruption de la police, de l'administration, qui ne sont pas les derniers pour leur foutre des raclées comme ça gratuitement, pour dealer de la drogue, ou même parfois les donner à des policiers qui les exécutent de façon assez sommaire. Donc, comme vous voyez, c'est un film très très gai. Et ils finissent par s'évader. Donc, ça fait une heure de film à peu près, ce milieu-là. Ils finissent par s'évader, et là, on les voit évoluer dans un milieu urbain, faire leur petit larcin, voire même plus que ça, dealer un petit peu de drogue, se prostituer pour pouvoir survivre, etc. Ou alors, voire même carrément faire les macs. Alors, c'est très étrange de voir des gamins être les macros d'une femme beaucoup plus âgée. C'est un film qui est plutôt dur, hein, faut pas s'attendre à... Non, comme je le disais, c'est pas La Guerre des Boutons, hein. C'est un film qui est plutôt dur, qui décrit bien les différences sociales au Brésil, la pauvreté, et comment les gamins ils font pour s'en sortir, parce qu'en fait Heitor Babenco a engagé de vrais petits délinquants, hein, pour faire ce film-là. C'est expliqué en prologue au début du film. Et aussi, il y en a un, d'ailleurs, le personnage qui joue Pigshot a été apparemment abattu sommairement par les policiers, bien longtemps après le film, hein. Donc, c'est ce que décrit le film, c'est pas du tout une fiction, c'est limite un film presque documentaire. D'ailleurs, il y a une scène assez marquante vers la fin où justement, tout ce petit monde là qui se dit ami, etc., etc., bien sûr ça s'éclate, hein. Bon, je vais pas spoiler de ce qui se passe, mais c'est un film très violent, c'est dur, c'est violent, et il y a cette séquence qui apparemment n'est pas feinte, hein, où Pigshot se retrouve à téter le sein de la prostituée. Et en fait, c'est une scène qui est complètement improvisée. Et, l'acteur est retombé comme dans un état d'enfance, ou comme s'il était avec sa mère. Et quand on voit l'actrice qui a du mal à se dépêtrer de lui, puis de la voir en colère, en fait, c'est pas du tout un jeu, c'est vraiment arrivé. C'est donc la caméra a capté ce moment qui n'était pas du tout du jeu d'acteur, en fait. Donc, Pigshot, donc c'est un classique du cinéma brésilien. C'est un classique, c'est le classique d'Hector Babenco, avec La Femme Araignée, hein, le titre exact m'échappe, Le Baiser de la Femme Araignée, qui encore se passe dans un milieu carcéral, hein. On retrouve les mêmes thèmes, hein, enfermement, homosexualité, drogue, etc., qui est une description de la société brésilienne quand même assez sombre.
Ah ouais, Benko, ça rigole pas. Hein. On avait parlé d'Ironweed aussi et tout ça. Enfin, c'est pas un cinéaste qui rigole, ça c'est sûr. C'est vrai que le film est pas décousu, mais c'est vrai qu'il a un côté vignette. Enfin, vignette. Parce qu'en fait, il suit aussi les improvisations des acteurs, visiblement. Il y a une trame, et puis il suit l'improvisation des acteurs. Il y a quelque chose qui revient aussi, qui est une vraie thématique, tu l'as dit toi-même, du cinéma de Babenco, l'homosexualité, parce qu'on a effectivement un personnage de travesti. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que dans le groupe, ça les questionne pas du tout, hein. Enfin, je veux dire, chacun sa sexualité, puis c'est tout, voilà. Et effectivement, bon, faut dire aussi que ce gamin là qui fait Pigshot, il est super charismatique, quoi. Il imprime l'écran. Alors c'est un film qui est très connu en France parce qu'il avait une énorme, enfin, sortie VHS. On l'a tous vu. Il est passé à la télévision. C'est vraiment un film qui a marqué une génération, qui a marqué notre génération. Je pense que Thomas, on peut le dire, hein, qui est un film assez poignant, en fait, en vérité, parce qu'on est en fait assez triste. On sait très bien que la destinée de Pigshot va être et de ses amis va être terrible, hein, et effectivement le rejet par cette femme quand il lui tète le sein, elle se refuse à être sa mère de substitution. Bon, c'est comme une deuxième déflagration pour lui. Enfin, c'est Il est malin Babenco, parce que du coup malin dans le bon sens du terme, hein, je veux dire, il utilise très bien cette scène parce que qui est improvisée mais qui effectivement donne une noirceur encore plus grande. C'est assez nihiliste en fait, il n'y a pas vraiment de porte de sortie pour ces petits jeunes. On n'est pas du tout dans quelque chose qui va ressembler à la Cité de Dieu de Mireles, par exemple, tout ça. Là, on est dans quelque chose vraiment sans issue, quoi. Le titre aurait pu être aussi sans issue. Voilà, c'est vraiment un film très marquant. C'est un très grand film, hein, Pixote, moi je dis Pixote, mais c'est vrai que si je prononce à la portugaise, Pixote, la loi du plus faible, qui est un très grand film d'Hector Babenco, qui est donc disponible chez Carlotta Film.
Pobre não é pobre é mais de dois, muito mais de três, e vai por aí, e vejam só. Paisagem, metade do céu já é meu. Deus dando a paisagem, metade do céu já é meu. Pobre nunca teve posto, a tristeza é a sua cicatriz. Repare bem que só de vez em quando pobre é feliz. Ai, tanto desgosto, ai, tanto desgosto. Assim a vida vale a pena, não? Mas é explicar a situação, dizer pra ele que pobre não é pobre é mais de cem, muito mais de mil, mais de um milhão. E veja, Deus dando a paisagem, metade do céu já é meu. Deus dando a paisagem, metade do céu já é meu. Pobre nunca teve posto, a tristeza é a sua cicatriz. Repare bem que só de vez em quando pobre é feliz. Ai, tanto desgosto, ai, tanto desgosto. Assim a vida vale a pena, não? Mas é explicar a situação, dizer pra ele que pobre não é pobre é mais de cem, muito mais de mil, mais de um milhão. E vejam só, Deus dando a paisagem, o resto é só ter coragem. Deus dando a paisagem, o resto é só ter coragem.
On va un peu changer de style de film, hein, là, puisqu'on est dans une esthétique beaucoup plus léchée, mon cher Damien, pour parler de Little Buddha de Bernardo Bertolucci. Alors, l'immense Bernardo Bertolucci, qui est un cinéaste que j'adore, hein, et qui a là pu bénéficier d'une restauration 4K de son film, qui est supervisée par l'immense Vittorio Storaro, 3 Oscars, très grand directeur de la photo. Vittorio Storaro, qu'on avait longuement rencontré avec Thomas Roland, qui est dans ce studio. On l'avait interviewé plusieurs heures. D'ailleurs, on peut toujours podcaster cette série d'entretiens que l'on avait eu avec lui il y a quelques années maintenant, qui est disponible donc, sur notre blog et sur les différents podcasts, donc culture-prohibé.blogspot.com. Et là, il se voit honoré, donc Bertolucci, d'une restauration supervisée par Storaro, de Little Buddha, qui est un film quand même un peu à part dans sa carrière. C'est un film américain, déjà, qui est un film de 93 avec un tout jeune Keanu Reeves, mon cher Damien.
C'est un très beau film qui entrecroise deux histoires, celle de Jesse et celle de Siddhartha. Alors, Jesse Conrad, c'est un petit garçon de 9 ans qui vit à Seattle avec son père ingénieur qui s'appelle Dean, ainsi que sa mère Lisa, qui est enseignante. Et un jour, il va recevoir la visite étrange d'une délégation de moines bouddhistes qui viennent du Bhoutan, sous la direction du lama Norbu et de son ashram Champa. Et ces moines sont là pour lui dire qu'ils pensent qu'il est la réincarnation d'un de leurs chefs spirituels. Alors, ils ne lui disent pas directement, ils posent un peu l'idée, mais ils vont lui offrir un livre narrant l'histoire de Siddhartha, qui est en fait un prince qui deviendra à l'avenir Bouddha. Et tout ça va se terminer par une visite de l'Himalaya. Donc c'est un film qui est entre quoi celle de Jesse, un enfant à Seattle qui va se découvrir potentiellement une grande destinée, ou en tout cas qui a une importance pour certaines personnes dans le monde, et Siddhartha qui lui est un prince qui va abandonner en fait sa royauté afin de vivre une vie beaucoup plus simple. Alors comme tu l'as dit Jérôme, à la photographie on a Vittorio Storaro qui a une magnifique photo. C'est quelque chose qui m'a marqué dès le début du film, avec une caméra posée. Et le réal Bertolucci fait quelque chose qui est très intéressant, c'est que il a fait le film Le Dernier Empereur, et en fait il a quelque chose dans la façon dont il va filmer les enfants, et je trouve qu'on retrouve dans Little Buddha, c'est que généralement il va mettre ses acteurs au milieu d'espaces qui sont très grands, un peu comme s'ils étaient pris dans une boule de neige, en fait, comme s'ils étaient pris dans cet espace entouré de foule, et on n'a jamais l'impression qu'ils sont écrasés par l'environnement qui les entoure, bon, sauf dans Le Dernier Empereur, mais ici on a plus l'impression qu'ils découvrent un nouveau monde et qu'ils essayent de rentrer en contact avec et de quasiment de se l'approprier, ce qui est quelque chose qui est intéressant, parce qu'on a justement cet enfant Jesse qui en fait découvre tout un pan du monde qu'il ne connaissait pas. Il découvre le bouddhisme, il découvre la réincarnation, il découvre l'Himalaya et le Bhoutan, et c'est très intéressant de voir toutes ces découvertes à travers ses yeux. Alors quand on parle de film, on parle souvent de Keanu Reeves parce que c'est l'un de ses premiers films, alors qu'en soi il a une apparition qui est assez courte parce qu'il joue le prince Siddhartha mais uniquement à un certain âge. Et on pourrait résumer son rôle à être resté assis au bord d'une rivière. On a Bridget Fonda qui joue la mère Lisa et qui a une passion pour les trois, vu qu'elle est dans Evil Dead 3 et dans Le Parrain 3. On a aussi, et ça m'a beaucoup perturbé, Chris Isaac, qui joue le père et que je connais surtout pour la chanson Wicked Game, et notamment parce qu'il fait il fait une des voix dans des dessins animés Over the Garden Wall, qui fête cette année ses 20 ans, mais qui est généralement plus connu pour avoir travaillé avec Lynch, et notamment Kubrick. Et c'est un film avec un casting qui est assez particulier. C'est un film où on se laisse porter à travers, notamment parce qu'il commence par sous une forme de conte, vu qu'il commence par Il était une fois, où on va nous introduire une histoire d'un moine sur le point de sacrifier une chèvre, qui va permettre d'introduire aux gens qui ne connaissent pas la réincarnation et de mettre aussi en avance la bienveillance d'un des personnages secondaires principaux. Étrange formulation, mais vous comprendrez en regardant le film, qui est le Nama Norbu, et ça nous montre son interaction envers les enfants, ce qui va être très important, vu qu'au cours du récit, il va en croiser beaucoup. Et il n'y a pas juste Jesse qui va être au centre du récit, on va avoir d'autres personnes qui vont être introduites, d'autres enfants, et on va voir leur interaction entre eux. Et ce qui est intéressant en croisant la vie de Jesse et de Siddhartha, c'est qu'on met en parallèle certains moments, notamment Siddhartha qui est contrôlé indirectement par son père, qui doit rester dans la cité, et qui, quand il devient adulte, va pouvoir expérimenter, là où Jesse en fait a grandi. On peut pas dire qu'il est contrôlé par son père, même si son père a quand même d'autorité sur lui, mais c'est au même moment où Siddhartha commence à explorer le monde que Jesse va s'ouvrir et va commencer à explorer le monde. C'est un film que j'aime bien parce qu'il est très bienveillant, très beau, très calme, tout doux, limite naïf sur certains points. C'est pas le meilleur film de Bernardo Bertolucci, mais Little Buddha est une pépite pour les iris et les yeux, disponible chez Rimini Éditions.
écoutez Culture Prohibée. On va continuer avec des films qui donnent certainement des visions un peu moins idylliques quand même que celui dont Damien vient de nous parler, à savoir Little Buddha de Bernardo Bertolucci, sorti chez Rimini Édition. On va aller chez Blackout, qui a sorti la Yurte, YURT de Neyirtuna. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est pour ça que je vous épelle le titre du film, qui est un film très particulier, et qui a en plus des liens avec un autre film sorti chez Blackout, Heroico, dont on va parler ensuite. Les deux films qui sont des films là, récents, hein, qui sont sortis il y a très peu de temps, et qui racontent, alors celui-ci, ce film turc, donc, raconte en fait, c'est pareil, l'histoire d'un gamin, d'un ado. Alors c'est un ado, c'est un beau jeune homme, il s'appelle Ahmet, il a 14 ans, il va dans la journée va dans une école laïque, en fait. On est en 96. En 96, c'est une période charnière, hein, dans l'histoire de la Turquie. Le pays est très agité. Bon, il a connu d'autres périodes d'agitation ensuite politique, hein, mais là, le pays d'Erdogan est très, 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 très agité. Et Ahmet, il a un secret, en fait. Il a un secret terrible qu'on voit tout de suite dès le début du film. C'est-à-dire qu'il va dans cette école laïque. Où en plus il y a une très belle jeune fille qui est amoureuse de lui, tout ça. Enfin bon, tout se passe bien pour lui, il a des potes, tout ça. Enfin voilà, un gamin plutôt bon élève, enfin ça va, tout va bien. Et le soir, il va dormir en fait dans un dortoir islamiste, hein, ce qu'on appelle donc ce fameux yurt, parce que son père, qui fait partie d'une congrégation, qui est un homme puissant, qui est converti depuis peu visiblement, enfin. Il est musulman depuis toujours, mais il est depuis peu dans cette congrégation. Il va, l'obliger, il contraint son fils en fait à aller dans ce dortoir où qui est un dortoir où on apprend l'islam à ces garçons qui dorment dans ce dortoir. Et le film est très très intéressant. Alors parce qu'il utilise un très beau noir et blanc. C'est un film très beau, stylistiquement parlant. Le film est en noir et blanc, mais il n'est pas tout le temps en noir et blanc. C'est-à-dire qu'il est en noir et blanc pendant une grande partie du film, pendant les trois quarts du film, les deux tiers. Et un noir et blanc vraiment majestueux, vraiment très, très beau. Et on voit, comment dire, sans cesse, puisqu'il utilise toutes sortes de... Enfin, le réalisateur maîtrise très bien la grammaire cinématographique et pouvant utiliser des ralentis, introduisant des scènes oniriques par instant, enfin voilà. Et on voit ces deux mondes qui s'affrontent, c'est-à-dire entre ce monde de la laïcité façon Atatürk, la laïcité qui est propre au pays, et l'enseignement qu'on prodigue dans les écoles, et puis cet enseignement qu'on va prodiguer le soir après l'école à ce garçon qui a honte, hein, d'être dans ce dortoir islamiste, puisqu'il demande au bus de le déposer à une adresse qui, en fait, n'est pas du tout l'adresse du dortoir. Voilà. Pour pas que ses camarades de classe sachent qu'il est dans ce dortoir islamiste. Et on voit aussi la conflictualité au sein de la société turque, parce qu'il y a des Turcs aussi qui vont manifester, agresser les gens qui sont dans ce dortoir, parce qu'ils sont contre cette vision de l'islam. Voilà. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et... alors le dortoir, il est surpeuplé, c'est assez vétuste. Le metteur en scène, il a une très bonne idée, c'est de montrer les godasses qui sont rangées à l'entrée, parce que c'est très bien que dans une mosquée, on rentre sans les chaussures. Donc l'étagère avec les godasses, et le seul en fait qui a des godasses, qui a des belles chaussures, c'est Ahmet. Parce que Ahmet, il vient quand même d'une famille assez tunée. Et d'une famille de la petite bourgeoisie, son père est quelqu'un d'important, d'une famille aussi, on voit que sa mère est une femme assez libérée, en vérité. Et il se passe quelque chose d'assez terrible, c'est que ce gamin ne rencontre pas Dieu, en fait.
ça va donner lieu à une scène assez extraordinaire où il affronte son père verbalement. Il dit, mais moi, je ne rencontre pas Dieu, je n'ai pas rencontré Dieu. Alors qu'il a, il a bien compris qu'il y avait une jeune fille qui était amoureuse de lui. Il est aussi un peu amoureux d'un garçon qui est un autre membre du dortoir. Enfin, il se questionne sur sa sexualité. Hein. L'homosexualité est très clairement abordée. Et à un moment, le film va basculer dans la couleur. La couleur va apparaître à un moment où comment il va décider de s'affranchir de toutes les règles et de partir dans une fugue avec l'ami qu'il a au dortoir. Une fugue très sensuelle, en fait. Où les couleurs chaudes vont venir du coup complètement changer notre vision de ce jeune homme qui est en fait perdu dans une société où on lui laisse pas de choix en fait. Et puis le film va en plus développer des choses qui sont très 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 intéressantes parce que il y a toute cette partie froide dans le dortoir et toute cette partie chaude hein, qui est soulignée à la fois par la photo, la manière dont c'est cadré, dont c'est découpé. Ces deux antagonismes qui font que ce gamin va être obligé de faire un choix. Et ce choix, il y a un moment, il y a une phrase qui est dite hein, comme ça hein, dans le film. Ce choix, son père soutient une idée avec sa congrégation, en fait, que le seul choix qui s'offre au peuple turc, c'est de les effrayer. Et comment les effrayer ? Eh bien, il faut que le peuple turc ait peur de Dieu. C'est dit très clairement dans le film. D'où ces yurtes, en fait, hein, ces dortoirs. Sauf que lui, ce gamin, il ne voit pas du tout la même chose. Et lui, il comprend bien que dans le dortoir, il y a des abus sexuels, que le type qui gère, l'un des types qui les gère est un type absolument pas clair. Il y a des brimades, il y a des punitions corporelles. Enfin voilà, il y a toutes ces choses qu'on retrouve bah, généralement quand on met du monde dans un même endroit, hein, voilà, qui sont ici bien loin des valeurs soi-disant défendues par ces gens qui défendent une certaine vision de l'islam. Ça, c'est des points communs qu'on a avec le film suivant, dont on va parler, Héroïco. Et donc, Yurt, pour moi, Denis Yurtunas, ça a été une très belle découverte. Je le trouve d'ailleurs plus maîtrisé, plus tenu que Héroïco. Moins abscon aussi, hein, plus frontal dans la manière de se frotter à la réalité. Et c'est un très beau film d'auteur où en fait une sorte de version turque en fait des 400 coups sauf que ce gamin là c'est pas un délinquant. Ce qu'on voit, c'est que la société turque fabrique de par ses contradictions, de par son histoire, fabrique une génération tiraillée entre une certaine idée du bien et du mal et une génération qui va avoir beaucoup de mal à s'en sortir, quoi. Voilà. Donc c'est un film bon, pas très gai, hein, je vous l'avoue, voilà. Mais c'est aussi un film très beau, porté par une certaine sensualité qui moi m'a vraiment parlé. Donc je vous conseille vivement Yurt de Nehir Tuna, sorti chez Blackout.
Il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel
tornerà.
Écoutez Culture Prohibée spéciale enfance et adolescence au cinéma. Un autre film, mon cher Thomas, qui est par certains aspects donc pas très éloigné de celui-là. Moi, j'ai vu les deux à la suite. C'est Heroico de David Zonana, qui est un film mexicain sorti chez Blackout également.
Il y a aussi question de dortoir dans Heroico. Hein. C'est l'histoire d'un jeune homme qui décide de s'engager dans l'armée pour pouvoir s'élever socialement parce qu'il vient d'une famille assez pauvre. Hein. Et sa compagne est enceinte, donc il a besoin d'argent. Il va découvrir un autre monde auquel il ne s'attendait pas du tout. C'est une mise en scène assez froide. Hein. Je trouve que la mise en scène est plutôt froide, très, très, très technique.
Très stylisée,
ouais. Donc, il va découvrir un monde corrompu, violent, où les militaires ne sont pas forcément ce qu'ils pensaient être. Avec des rituels de passage, bon, du bizutage, bien sûr, mais des rituels de passage où c'est assez dur, du harcèlement, de la violence, du tabassage. Et il va être entraîné là-dedans, dans ce monde-là, plus ou moins malgré lui. On voit qu'il est tiraillé. Notamment à un moment, pour montrer son appartenance à ce nouveau monde, on le contraint à tuer un chien avec une arme blanche au couteau. Et parfois, les militaires, ils l'embarquent avec eux, il fait le chauffeur, et puis on devine qu'ils vont racketter une riche famille, par exemple. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la maison. On le saura à la fin, dans une conclusion assez, assez violente. C'est un film assez étrange, où parfois on ne sait pas, malgré cette mise en scène très froide, très stylisée, parfois on ne sait pas si on est dans la réalité ou si on est dans une sorte de rêve, parce qu'il y a des côtés assez oniriques, notamment le décor. Hein, alors c'est partagé entre ces dortoirs très blanc, très froid, filmé avec des travelling très lents. Et il y a cette arène qui rappelle un peu une architecture aztèque. Hein, et là, c'est utilisé à des fins plutôt oniriques. Alors, on ne sait jamais, parfois, si on est vraiment dans un rêve ou la réalité qui permet de montrer un peu comment ce personnage est tiraillé entre... devoir rester pour pouvoir garder de l'argent ou alors se barrer parce que ça ne correspond pas à ses valeurs, quoi. Donc c'est bon, moi c'est pas un film qui m'a entièrement convaincu. Je trouve que c'est un film intéressant, mais je trouve pas que ce soit un film exceptionnel, quoi.
Je partage ton avis. Je trouve que Yurt est vraiment excellent, autant je trouve que Heroico n'est pas sans défaut. Alors faut savoir que le film... Alors, c'est bien sûr une charge virulente contre l'armée, mais c'est plutôt une métaphore. Enfin, le réalisateur voulait ça comme une métaphore sur l'état du Mexique, et en particulier la normalisation de la violence au Mexique. Et visiblement, le film au Mexique, de ce que j'ai pu lire pour préparer cette émission, a déclenché énormément de débats. Et c'était le but du réalisateur, c'est d'amener à avoir une réflexion sur la violence, parce que toutes les formes de violence y sont abordées. C'est une sorte de catalogue de toutes les violences. D'ailleurs, quand ils partent en virée, parce qu'en fait, ce gamin-là, lui, c'est le fils d'un militaire qui l'a abandonné. Donc, il aurait déjà dû comprendre que les militaires, ce n'était pas des types bien. Il n'a jamais connu son père, en fait. Mais son père était militaire. Donc, il y a aussi cette idée aussi de se rapprocher quelque part de son père. Et pour que son père soit, pour que lui soit le type bien que son père n'a pas été. Parce qu'en fait, sa mère, dans la même situation, jeune, enfin, qui était enceinte, lui, le père militaire s'est barré, il a disparu. On voit dans la caserne qu'en fait, très vite, il est pris sous son aile par une sorte de maréchal des logis, quoi, de type qui dirige son petit, leur petite chambrée. Et qui est gradé, mais qui n'est pas un très haut gradé, mais qui est quand même qui est important dans l'échelle des grades dans l'armée mexicaine. Et ce type, c'est vrai, il l'emmène avec trois autres types. Ils vont faire des vendettas, soi-disant, ils vont faire justice, effrayer des gens qui seraient des ennemis de la nation. On découvre ce qu'ils vont faire à la fin, d'ailleurs. Évidemment, c'est beaucoup plus terre-à-terre que ça. Hein. Le film, effectivement... il brasse beaucoup de sujets. À un moment, même ce type dit « Ah, t'as une femme, il faut que... » Il lui explique comment il doit faire l'amour à sa femme en des termes tellement graveleux que je ne vais pas vous le dire ici, mais qui démontre en fait aussi... Et puis ce qu'on voit tout le temps aussi, c'est qu'il regarde sur les réseaux sociaux, je pense que c'est sur TikTok, parce qu'évidemment sur TikTok, on peut trouver facilement ce genre de vidéos, des meurtres, des vrais meurtres ou des vrais viols. Et on sent des gens désensibilisés en fait à la violence. On voit une société où la violence est devenue quelque chose... qui ne choque plus la population. C'est vraiment un des propos forts du film, c'est-à-dire que, quelque part, le héros, ce jeune homme-là, lui, il est encore touché par ça. Est-ce qu'il se déshumanise au contact de ces types, ou au contraire, est-ce qu'il s'humanise ? D'ailleurs, la fin ne nous donne pas de solution, vraiment. La fin ne tranche pas. Alors, on va dire, oui, c'est au spectateur de se faire son opinion, je veux bien, mais là, je trouve que c'est un peu facile, en fait.
Moi, je trouve que cette mise en scène qui est un coup très froide, très stylisée, là, et tout d'un coup, elle est onirique. Moi, je pense que ça perturbe un peu le propos. Le propos, il est noyé là-dedans. Et donc, du coup, on ne sait pas très bien. Parce que finalement, quand il fait une mise en scène très froide, quelque part, il rejoint un peu... Il se noie dans son discours, quoi. Il se prend les pieds dans le tapis, pour moi. Et ses côtés oniriques... parfois, on a du mal, enfin, je pense que c'est voulu de toute façon qu'on ait du mal à faire la part des choses entre le rêve et la réalité. Mais je trouve que son propos, il en perd en force.
Je trouve que le film est trop symbolique, en fait. Voilà, c'est-à-dire que, effectivement, le lieu où c'est tourné est absolument démentiel. Hein. C'est dément. Tu me dis tout à l'heure, un temple aztèque. Je sais pas ce que c'est que ce lieu, mais c'est démentiel. On voit bien aussi. La force de l'État, la force de l'armée, hein, comment c'est une grande muette, hein, le surnom n'est pas galvaudé, parce qu'à un moment, il y a des soldats qui disparaissent, et puis lui, on le voit dans des scènes oniriques, échanger avec la mère de ce soldat, hein, et c'est assez... En fait, le film a des côtés cérébraux, qui vont se heurter à la trivialité de certaines scènes, parce qu'il y a... Alors, c'est certainement volontaire, mais c'est pas complètement abouti, parce que ça reste quand même un très bon film, hein. C'est à voir, hein. Mais c'est une vraie proposition de cinéma. Mais je trouve que, par exemple, Yurt, le film dont on a parlé avant, où il y a les mêmes thèmes, hein. Il y a les brimades, les violences, il y a cette homosexualité refoulée aussi, qui est très présente dans le film, hein, cette homosexualité refoulée, qui devient un instrument de domination. Enfin, c'est très, très, très particulier la manière dont est traitée l'homosexualité dans ce film. Et le film est peut-être un peu trop cérébral pour moi, en tout cas. Ou alors, il est pas assez d'un côté, trop de l'autre. C'est ce qui fait pour moi que le film est un très bon film, mais un film où je pense qu'il aurait gagné en clarté. Le réalisateur aurait dû trancher... sur certains aspects du film, il ne tranche pas.
Ah, oui. Moi, la froideur dans la mise en scène rejoint son discours, c'est-à-dire on est désensibilisé à la violence. Et pour moi, ce côté très froid, très esthétique, m'éloigne du propos, en fait.
Et le soutien aussi, puisqu'effectivement, tu l'as dit à l'instant. C'est tout le paradoxe de ce film, vous l'avez compris, c'est un film à voir, c'est un film très intéressant, mais c'est aussi un film... plein de paradoxes. Ça s'appelle Heroico de David Zonana. C'est disponible chez Blackout. Je vous conseille de voir les deux à la suite, d'ailleurs, Yurt et Heroico, parce que c'est deux pays très différents. Et en même temps, on y voit les mécanismes d'oppression qui se mettent en place, d'un côté lié à la religion, de l'autre côté lié à l'armée. Et bon, ça donne une image de notre monde et puis de ces pauvres adolescents qui sont perdus dans ces mondes-là, qui est effectivement pas très reluisante.
Oui, c'est un peu l'émission comique, là, cette fois-là.
« avant eux, avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous étions en liberté, mais ils sont arrivés, et la fleur est en peau, et l'oiseau est en cage, et nous en numéro, car ils ont inventé prison et condamné, et casier judiciaire et trous dans la serrure, et les langues coupées des premières censures. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il n'y avait pas de problème quand poussaient les bananes, même pendant le carême. Mais ils sont arrivés bardés d'intolérance pour chasser en apôtre d'autres intolérances. Car ils ont inventé la chasse aux albigeois, la chasse aux infidèles et la chasse à ceux-là, la chasse aux singes sages qui n'aiment pas chasser. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les singes, les singes. Les singes de mon quartier, les singes, les singes, les singes de mon quartier.
Vous écoutez Culture Prohibée.
L'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province. Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant, la province se meurt, la princesse se vend. Car ils ont inventé l'amour qui est un péché, l'amour qui est une affaire, le marché aux pucelles, le droit de courte cuisse et les mères maquerelles. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il y avait paix sur terre, quand pour 10 éléphants, il n'y avait qu'un militaire. Mais ils sont arrivés, et c'est à coups de bâton que la raison d'État a chassé la raison. Car ils ont inventé le fer empalé, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe au napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes de mon quartier.
Je ne vais pas vous faire marrer hein, pour la fin, je suis désolé. Je vais vous parler d'un film de Fientrock. Alors Fientrock, c'est un réalisateur, je pense qu'il est flamand, d'un film de Fientrock qui est aussi sorti chez Blackout, qui s'appelle Holly. Holly, c'est un titre à double entrée. Hein, Holly, qui veut dire sacré en anglais, mais qui est aussi le prénom d'une adolescente belge, donc une adolescente très timide de 15 ans. Alors, on ne comprend pas trop, elle est marginalisée par ses camarades de classe qui la disent moche et tout ça. En fait, elle est très jolie, et donc c'est pour ça, ça c'est un truc qui me dépasse un peu dans le film. Mais après, on comprend pourquoi, en fait, au fur et à mesure que le film va évoluer, pourquoi elle est rejetée. C'est pas vraiment pour tout ça, en fait. Ils ont même peur de la toucher. Et comme elle serait, ce serait presque une gamine qui serait, comment dire, maléfique. Elle a d'ailleurs son seul pote, c'est un autre ado qui, lui, est vraiment un ado qui va aussi très mal, très dépressif, qui va pas bien du tout. Et l'histoire, en fait, est assez étrange. On est clairement à la limite du fantastique. C'est un vrai film sur l'adolescence. Et un peu comme le film précédent, c'est un film qui tranche pas non plus. C'est tout le paradoxe de ce film, très intéressant. Donc, elle, c'est une ado, Holly. Elle a 15 ans. Et c'est vrai qu'elle est marginalisée hein, dans le lycée où elle va. Et puis un jour, elle a comme une vision, elle a un côté médium, en fait, cette jeune fille, cette jeune femme, et elle déclare, elle appelle son lycée, puis elle dit, je vais pas venir aujourd'hui, je sais pas, je me sens pas bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer, je veux pas venir. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un incendie dans le lycée. Il y a quelques élèves qui meurent, et il y a 10 élèves, très exactement, qui meurent. Tous ces gens qui la regardaient de loin, et en particulier une prof qui vit avec un des hommes d'entretien du lycée, va petit à petit être fascinée par Holly et la ramener en fait dans le giron de la société humaine. C'est-à-dire que Oli, personne ne lui parle, personne ne veut lui adresser la parole, elle est mise de côté, c'est une pestiférée. Et puis, elle découvre, cette enseignante, en regardant des vidéos où il y a Oli, qu'en fait, dès qu'elle touche quelqu'un, elle désamorce un conflit. Dès que quelqu'un se frotte à Oli, les gens derrière rient, ils ont le sourire, ils sont heureux. Donc, elle se demande si Oli n'a pas un don pour apaiser les gens. Donc, elle l'a fait venir dans son association. Il y a une association au sein du lycée qui vient en aide et qui organise là un pèlerinage, en fait, pour les parents des victimes et tout ça. Et effectivement, Oli, au contact de ces gens, va leur apporter du bonheur. Ils vont se sentir mieux, ils vont être plus heureux. Et c'est vrai que l'actrice, en plus, qui est interprétée par... C'est Catalina Gerhardt, Elle a ça en elle. Elle a le visage qui va avec. C'est-à-dire qu'elle est capable, cette actrice, d'être une sorte d'adolescente mâle dans son corps, un peu longiligne et tout ça. Puis tout à coup, d'être complètement lumineuse et d'être vraiment cette personne solaire, totalement solaire, qui va apporter le bonheur aux gens auxquels elle va se frotter. Et puis petit à petit, alors, la photo est très belle. Hein, c'est la photo est de Frank Van Den Eeden, qui est le chef opérateur de Close de Luca Dont, qui est un film qui avait fait pas mal parler de lui lors de sa sortie, je crois que c'était l'année dernière. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, cette adolescente qui était la pestiférée va devenir une sorte d'idole, va devenir presque sacrée. Et la vraie question du film, c'est bon, est-ce qu'elle va en tirer profit ? Pas profit, mais là, je pense profit en termes pécuniaires, hein, c'est-à-dire se faire payer pour apporter du bonheur aux gens, tout ça. Et c'est la question que pose le film à travers donc une mise en scène très soignée, très élégante, et petit à petit un malaise assez sourd dans le film qui se met à nous envahir, puisque cette jeune femme avec qui on était entré totalement en empathie, puisqu'elle était pestiférée, puisqu'elle était mal vue, on ne comprenait pas pourquoi, petit à petit va se révéler au fur et à mesure qu'elle se met à être appréciée par la communauté. Une autre personnalité, une autre facette de sa personnalité va être mise à jour, qui n'est pas forcément la plus belle d'ailleurs, et qui du coup va nous intriguer, nous... Alors, tout ça est bien, bien soutenu parce qu'il y a la musique de Johnny Jewel qui est une musique très, comme ça, très planante, tout à fait dans l'air du temps d'ailleurs. Hein. Le film va petit à petit s'orienter aussi vers quelque chose de fantastique, car que cette jeune fille qu'on a aimée, on l'aime de moins en moins, mais on a quand même envie de l'aimer, parce que par moments elle fait le bien, mais par moments elle a un comportement assez étrange. Et puis surtout, ce que je reproche un peu au film d'ailleurs, de ne pas trancher. Alors l'ambiguïté c'est bien, mais là l'ambiguïté est entretenue tout le long, mais sans jamais vraiment qu'on ait un vrai point de vue là-dessus. On va avoir cette jeune fille, on ne sait pas vraiment si elle a des pouvoirs, en fait, en vérité. Est-ce qu'elle a des pouvoirs ? Est-ce que c'est une version un peu autorisante de Carrie, par exemple, de Stephen King, adaptée par De Palma ? Parce qu'après tout, qui dit que cet incendie, ce n'est pas elle qui l'a provoqué. Par le biais de pouvoirs paranormaux, évidemment. Hein. D'ailleurs, la fin, où elle envoie un peu au casse-pipe un de ses amis... on ne sait pas vraiment si elle l'envoie au casse-pipe, est-ce qu'il y va de son plein gré, très très étrange après avoir eu une discussion avec elle. Cette fin-là non plus ne tranche pas véritablement, et c'est un peu le reproche que je ferai au film de Fien Troc, qui est, alors on n'a pas besoin de tout expliciter dans un film, c'est bien de laisser la part belle à la réflexion du spectateur, mais lorsque le propos et comme ça, d'aller à la lisière du fantastique, il ne faut pas non plus qu'on se mette à faire un film fantastique pour les gens qui n'aiment pas le fantastique. C'est-à-dire pas assez fantastique pour que justement ça puisse plaire aux gens qui aiment bien le cinéma d'auteur, et puis quand même un tout petit peu fantastique pour raccrocher un peu les Levetid Horror, tel qu'on dit aujourd'hui. Enfin, voilà. Alors, ce qui fait que ça donne un film, alors, pour moi, c'est un bon film, hein, mais j'aurais aimé que le film aille un peu plus loin dans sa réflexion, tranche réellement sur ce qu'est Oli. Cette adolescente donc qui est quand même un drôle de personnage, mais c'est le film a une très belles photos, mordorées comme ça, des tons très, très, très beaux, une très belle musique, une réalisation très élégante. Et puis, c'est la révélation d'une actrice, hein, Catalina Gerhardt, qui est vraiment excellente, qui imprime l'écran, hein, qui est très, très charismatique. Voilà, donc c'est un film qui va certainement, comment dire, vous laisser un peu perplexe. La grande originalité du film, c'est quand même d'aborder le harcèlement scolaire par le biais du mysticisme. Ça, c'est assez étrange. En cela, ça rejoint des films dont on a parlé tout à l'heure, hein, sur la mystique. Ça, c'est vraiment la très grande idée du film. Mais le film va certainement vous laisser pantois lors de son final. Mais j'aurais aimé que le film soit carrément fantastique, soit pas, mais qu'on ait vraiment une réponse à nos questionnements sur cet aspect-là, tout du moins. Alors, ça s'appelle Holly. Vous l'avez compris, c'est un film qui m'a un peu interloqué. C'est un film que je vous conseille. Un film de Fien Troc qui est disponible chez Blackout. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.